le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komanicki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui, et demain les écoutait. Alors à pleine bouche, j'ai puisé, avalé mon contenant de rivière salée, j'ai tourné ma langue cette fois. Le goût de la maracuja et de la goyave me sont montés en bouche et au son des tambours bêlés, sur l'île des revenants, j'étais arrivée. On se préparait à y fêter les morts. Tu me crois ? Tu ne me crois pas. Pourtant c'est là. C'est sur le bout de ma langue.
Pays-nous-en, belle, 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 faut qu'apprenne mes pays-nous-en, pays-nous-en, belle, belle, belle. Gelman est pays nous en belle, belle, belle. Faut qu'apprenne mes pays nous en. On nous passe à li pays nous en, belle, belle, belle. Gelman est pays nous en, belle, belle, belle. Martinique, yo dit où c'est l'île aux fleurs, pays nous en, belle, belle, belle. Martinique, où c'est l'île aux fleurs, pays nous en, belle, belle, belle. Gelman est pays nous en, belle.
Alors qu'en métropole, la Toussaint est traditionnellement vécue comme un jour de recueillement, elle constitue pour les Antillais un moment de fête partagée en famille. Une pratique qui résulte d'une approche totalement différente de la mort. Si un jour vous avez la chance d'être aux Antilles pour Toussaint, vous remarquerez qu'aux abords des cimetières, la musique est présente comme toujours et que les vendeurs de sorbets coco et autres friandises régalent les passants. C'est une ambiance de fête qui règne. Ce jour-là, les familles ne se rendent pas au cimetière avec des chrysanthèmes mais avec des bougies qui sont du plus bel effet à la nuit tombée sur les monumentaux caveaux familiaux. Avec le temps, la modernité, la mondialisation, les Antilles françaises ont énormément changé. Les infrastructures mais aussi les rapports humains ont évolué. Un certain nombre d'artistes, notamment, regrettent la disparition progressive des valeurs ancestrales et des traditions.
Alors, les après-midi de Toussaint de mon enfance sont des souvenirs extraordinaires. Alors, la veille et le matin, on préparait les tombes. Donc, on allait désherber, fleurir, repeindre toutes les tombes de notre famille. Et l'après-midi, enfin la séance de visite du cimetière, ça commence l'après-midi vers 3 heures. Donc mes parents arrivaient avec leurs 5 enfants. On allait d'abord sur la tombe de mon grand-père paternel. Et une fois qu'on était là, les cousins venaient, donc les autres petits-enfants de papa Fofo. Ensuite, nous allions sur la tombe de ma grand-mère maternelle et là, on avait les cousins de l'autre côté qui venaient passer un moment avec nous. Mes parents, à ce moment-là, nous racontaient qui était cette grand-mère-là, ce qu'elle avait fait dans sa vie, etc. Après, on allait sur la tombe de la famille de ma tante, c'est-à-dire la sœur de ma mère, donc la famille de son mari. On allait par là, on rencontrait d'autres cousins, etc. Et sur le trajet aussi, on rencontrait tous les gens, les voisins, les voisines, les habitants de Saint-Joseph qu'on connaît. Et on rencontrait aussi les personnes qui étaient allées s'installer dans d'autres communes, mais qui, pour le jour de la Toussaint, revenaient dans leur commune d'origine, sur la tombe de leurs parents, sur la tombe où ils étaient nés, en fait, de la commune où ils étaient nés.
Alors la Toussaint, c'est vraiment la fête où les gens se retrouvaient. Alors, il y a tout ce qui se passait en amont. Ah, il fallait rafraîchir les tombes, donc repeindre, redorer, etc. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que le cimetière était flambant neuf avec de la peinture fraîche et tout, bien propre, pas de poussière. Et puis le jour venu, les gens allaient allumer les bougies, prier, pendant que les enfants, eux, couraient. Et puis il y avait ces fameuses batailles de ce qu'on appelle les caca-bougies, en fait le reste des bougies avec lesquelles on faisait des boules. Et on se balançait les boules comme ça à travers les tombes. Et c'était les batailles de caca-bougies, c'était quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel aussi. Et c'était vraiment une... on a presque envie de dire une fête où les familles se retrouvaient. Parce qu'il faut savoir qu'ici, dans le rythme de la vie, aujourd'hui, eh ben, on se rencontre beaucoup à l'occasion des funérailles. Donc, ce jour-là, à la Toussaint, c'était le jour où les gens au cimetière, ben, les familles se retrouvaient. Des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, qui étaient partis habiter ailleurs, ben, revenaient au cimetière et c'était vraiment un moment de retrouvailles. Et puis, alors, il y avait les familles, mais il y avait aussi sur les tombes voisines, les voisins, les gens qu'on n'avait pas vus aussi depuis très longtemps, qu'on retrouvait ce jour-là. Et puis, petit à petit, ça s'est un peu tassé. Et puis, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de monde dans les cimetières. L'affluence a beaucoup diminué. Et puis, ça devient un peu tristounet. Ça se rencontre, ça parle un peu. Mais il n'y a plus cette agitation, cette ferveur, ce mouvement qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt une fête. On a presque envie de dire que ça se calme. On est dans une... déperdition de ce qui existait.
Et le jeu des enfants, c'était les batailles de caca-bougie. On faisait des boules avec la cire qui coulait des bougies et on se les lançait. On faisait aussi des ouelles, c'est-à-dire on jouait à cache-cache autour des tombes. Voilà. Et on s'amusait vraiment bien au cimetière ce jour-là.
Il est une chose qui demeure quasi immuable. Une coutume qui a su traverser les époques sans véritable dommage. Le rituel funéraire. Certes, les veillées mortuaires n'ont plus lieu au domicile du défunt, mais dans des maisons mortuaires mises à disposition par les pompes funèbres. Mais la tradition subsiste, quasi intacte. Dans la société traditionnelle antillaise, la mort ne pouvait pas être vécue dans la solitude. On avait l'habitude de proclamer les décès sur la place publique pour que tous puissent se rassembler autour de la famille du défunt et la soutenir dans son deuil. Aujourd'hui, c'est la radio, Martinique Première, qui a pris la place du héros à cheval et qui diffuse les avis d'obsèques sur les ondes, jusque 3 fois par jour. Pas d'esprit morbide là-dedans. La diffusion des obsèques n'est qu'une façon de perpétrer la tradition, laquelle prévoit qu'après l'annonce du décès, on procède à la veillée.
Alors, le conteur, lui, en fait, c'était la vedette hein, de la soirée. Parce que dans les veillées, il y avait ceux qui priaient, et il y avait ceux qui chantaient, et parce qu'il y a les chants de veillée, et puis il y avait le conteur. Et puis il y avait aussi les bêtiseurs, ceux qui racontent des conneries, qui font rire du monde. Donc il y avait tous ces espaces qui s'aménageaient autour des veillées, autour du mort, mais à des emplacements plus ou moins éloignés, différents, etc. Mais le conteur, quand il arrivait, il était attendu. Et sur la fin, le conteur, il était convié. On évitait les conteurs. On allait même les chercher parce que c'était souvent des personnes de certain âge qui ne conduisaient pas. Donc, il fallait organiser leur déplacement. Et le conteur, quand il arrivait, il siégeait au milieu de l'assemblée et il lâchait ses paroles. C'était vraiment... Alors, à cette époque-là, les veillées duraient toute la nuit. Donc, il fallait maintenir l'assistance en éveil. Et le conte, le chant, tout ça, il contribuait. Le conteur, c'était vraiment la star de la soirée, qui parlait sur le mort, qui parlait un peu de tout, du voisinage, qui racontait avec ses paraboles les choses qui se passaient dans le voisinage, les choses que faisait le défunt, etc. Et c'était quelque chose de... On avait l'impression que c'était de la pure improvisation, mais il y avait du travail de recherche qui se faisait.
Si vous avez l'occasion d'assister à une veillée, vous vous rendez très vite compte qu'il n'y a pas de larmes de tristesse apparente. Bien au contraire. L'assemblée, souvent très nombreuse, est réunie autour de la maison mortuaire avec tantôt un verre de rhum à la main, tantôt un bol de soupe, voire les deux en même temps. Et on parle fort, on rit, on raconte des blagues. Le défunt est entouré d'un cercle restreint composé de sa famille proche et de personnes, souvent des femmes, venues chanter des cantiques, dire des psaumes ou des prières. L'atmosphère est chargée de tristesse et de douleur. À l'extérieur de la maison mortuaire, en revanche, on trouve la famille éloignée, les amis, les collègues de travail, les connaissances et parfois même des étrangers complets. On palabre en souvenir des bons moments passés avec le défunt, on se rappelle des anecdotes, son mauvais caractère, ses petites habitudes, ses blagues. Tout est occasion de rire. La veillée n'est pas en soi un événement triste. Et puis vient l'heure du conteur. Généralement en deuxième partie de soirée. Son rôle est non seulement de produire des récits et fictions en relation avec le défunt ou la mort elle-même, mais aussi de faire réfléchir sur la place de l'homme dans le grand cercle de la vie. La palabre, les contes, la musique semblent être autant de façons d'évacuer la tristesse liée à la perte du défunt. On ne garde pas le chagrin pour soi. En soi. Et on l'exprime au contraire en communauté et dans une atmosphère joyeuse. Le législateur ayant interdit les veillées à domicile, celle-ci s'achève désormais à l'heure de fermeture de la maison mortuaire, soit en général à 1h du matin. Le lendemain, la dépouille est transportée au cimetière en passant par l'église. Après l'enterrement, la famille, les proches, les voisins, les amis se retrouvent tous les soirs pendant 9 jours au domicile du défunt pour prier. Il s'agit là d'accompagner la famille dans son deuil, de l'aider à réaliser une progressive atténuation de la douleur. Et enfin, le 9e jour, qui sera vécu de manière festive, une messe de sortie est célébrée. C'est comme ça que s'achèvent les 3 grandes étapes du rite funéraire.
Adieu, foulard, adieu, madras, adieu, grain d'or, adieu, collier chou, chez doux moi, qui qu'a pâti, hélas, hélas, c'est pour toujours, chez doux moi, qui qu'a pâti, hélas, hélas, c'est pour toujours. Belle batoua, qui dans la radla, qui prend doudou moi, qui mène y aller chez doudou moi, qui qu'a pâti, hélas. Hélas, c'est pour toujours, cher doudou moi, qui qu'a pâti. Hélas, hélas, c'est pour toujours.
Quand on compte, on ne compte pas seul. on fait toujours appel aux anciens, on fait toujours appel à ceux qui ont dit avant nous. Et quand on compte avec la cour, avec l'assemblée. On est en forme circulaire. Et quand on dit « Yé-Krik », les gens répondent « Yé-Krak ». « Yé-Mistikri », « Yé-Mistikrak », « Krik », « Krak ». On fait appel à tout ça. Un bon matin. Au pipiri chantant, un jeune garçon se lève. Il part, il quitte la case, il va au bout du chemin. Et quand il arrive, il y a des herbes, il y a du bois. Et il s'arrête là, il réfléchit, il revoit ses rêves de la nuit et il revient à la maison. Et il demande à ses parents, « Maman, papa, qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin ?»« Oh, tu nous embêtes, on t'a déjà dit qu'au bout du chemin, il n'y a rien. » Mais dans sa tête, dans ses rêves, il voit ce qu'il y a de l'autre côté de ce chemin. Et pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, il vient comme ça chaque matin au bout du chemin et il pose la question éternellement. Et puis ne voilà-t-il pas qu'il a grandi? Et un jour, il prend son petit carré madras, il met dessus un petit morceau de pain, il l'attache, il prend une petite carafe d'eau, il s'habille et il s'en va un matin très tôt, au pipiri chantant. Et quand il arrive au bout du chemin, où il y a les herbes, il y a les branches, il ferme les yeux, comme si ça venait tout seul. Il ne savait pas qu'il devait fermer les yeux, mais il a les yeux fermés, il avance dans le chemin. Et on a l'impression que les herbes, que les branches s'écartent pour le laisser passer. Il traverse. Il arrive tout en bas. Et tout en bas, il y a une petite ravine qui coule. L'eau est claire. Il se met ventre à terre et il boit un petit peu. Et il traverse la petite ravine, il monte sur le morne. Et tout en haut de la colline, il voit là-bas, au loin, une petite case en bois. Il s'approche. Et à ce moment-là, de nouveau, il ferme les yeux. Il laisse traîner ses mains sur les feuilles et il sent les bulles d'eau de la rosée du matin. Il s'approche d'une case en bois. Il est véritablement dans son rêve. Il est véritablement dans son paradis. Il a trouvé son bonheur. Et il arrive près de cette petite maison en bois, il monte deux, trois escaliers et la porte s'ouvre. Une femme habillée d'une grande robe madras, les pieds au sol, les mains sur la porte, en bois, l'invite à entrer. « Mais entre mon petit, entre !» Il entre, il s'installe sur un petit tabouret en bois et sur la table il y a un énorme petit déjeuner installé. Il est invité à partager le petit déjeuner. Il a mangé à toutes sortes de fruits, il mangeait mango, pommes d'Ilienne, toutes sortes de fruits, noix de coco, chocolat et tout. Tellement bien mangé qu'il s'est endormi sous un goyavier et il a dormi pendant des heures. Mais la dame, connaissant les enfants, est venue le réveiller pour lui dire « Mais écoute, jeune homme, il faudrait peut-être penser à rentrer chez toi. » Il se lève tout heureux. Évidemment, quand vous allez chez une grande personne, vous ne partez pas les mains vides. Il lui donne un petit paquet pour faire la route. Et il s'en va. Il redescend le morne, il passe la ravine, arrive au bout du chemin et entre dans le village. Dans le village, tout le monde est rassemblé, on le cherche pendant des heures. « Mais où étais-tu ?» Et là, il raconte son histoire. À peine était-il en train de raconter son histoire que les gens sont entrés chez eux. Ils n'ont pas eu le temps de se changer. Ils sont partis directement vers le chemin pour trouver le paradis à leur tour. Et en entrant dans les bois, ben, ils se sont fait déchiqueter, déchirer, blesser par les herbes, par les piquants, par les branches. Et ils sont revenus en lambeaux. « Hey, qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu nous parles de paradis au bout du chemin. Regarde notre état. » Et à ce moment-là, il lève les yeux vers le ciel et il ferme les yeux de nouveau et il continue à rêver. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à réaliser ses rêves. Yé-Krik.
Les vieux conteurs créoles qui passaient leur temps à structurer ces riens sur rien, donc à traiter l'indicible en son site, ne comptaient que la nuit, à la lueur de ces flambeaux que l'on appelle « sebi ». La coutume leur interdisait de raconter de jour sous peine d'être transformés en paniers. Cette histoire de panier était à la fois décevante et inexplicable. comment un panier pourrait-il devenir l'instrument d'une malédiction ? Ce que j'avais pu interroger à ce propos vieux conteur, maître pièce de l'université, docteur en humanité créole et autres curiosités, n'avait pas disposé d'un brin d'explication. Donc, le mystère reste entier. Néanmoins, devenir un panier sans être très méprisable ne doit pas être des plus intéressants. De fait, aucun conteur qui se respecte depuis longtemps des traditions jusqu'au jour sans principe d'aujourd'hui ne se risque à transgresser cette règle, donc le panier est frais. Les conteurs à l'origine chez les esclavagistes se produisaient dans les veillées mortuaires. Ils parlaient en face de la nuit, mais cette nuit se tenait, elle, en face de la mort. Du coup, elle contenait plus d'invisibles à mener au moulin des félicités et des terreurs. Parler en face ou auprès d'un mort, c'est comme se trouver à l'aplomb d'un abîme. Il faut se dépouiller au maximum car on se bat presque pour sa propre survie et pour la vie tout court. La tâche du conteur est de dire « venez » du côté de la vie. Et la vie n'était pas du côté de la dépouille, ni surtout au bord de l'ordre esclavagiste. La mort ne devait pas trouver la moindre faille dans le tissu de la vie. Les grands conteurs des veillées mortuaires étaient appelés les majolais, majors de l'air. Les majors sont les champions de cette danse de combat qui s'appelle le danmié. Par extension du terme, les maîtres conteurs furent considérés comme étant eux aussi des majors de la ronde de veillée comme une arène entre conteurs. Ils s'affrontaient avec le verbe, avec le souffle, avec, pour ainsi dire, un invisible. Leurs armes étaient faites d'air et de talent, mais elles pouvaient anéantir avec autant de violence que toutes les autres scélératesses. Ce combat d'air, c'était aussi une lutte contre l'abîme symbolique couvrait un mort au milieu des vivants, contre cet impalpable que la nuit et les sébis, les prières et les larmes précipitaient dans les consciences et dans le monde. Prendre de l'invisible, de l'indicible, et en faire un récit. L'amener à signifiance, se saisir de la mort, la dépouiller de son horreur et l'amener de petites touches de rire en petites touches de rire à opérer une célébration de la vie et s'ériger en instrument de connaissance. Les nuits sont toujours enceintes, nous disent les Arabes. Elles sont les seules qui, dans un même mouvement, peuvent dissiper les certitudes du jour et recharger le monde pour la splendeur d'une aube. C'est le genre de nuit qui se vivait dans mes entends d'enfance. Patrick Chamoiseau, la matière de l'absence.
For
nous apprenons mes pays nous.
Pays nous en belle, belle, belle.
La Martinique, yo douce l'île aux fleurs.
Pays nous en belle, belle, belle.
Martinique, où c'est l'île aux fleurs.
Pays nous en belle, belle, belle.
Pays nous en belle, belle, belle.
Pays nous en belle, belle, belle.
Martinique, où belle, où belle, où belle.
Pays nous en belle, belle, belle.
Gamonia, pays nous en belle.
Pays nous en belle, belle, belle.
Gamonia, pays nous en belle.
À la maca par les autres là. Diable lui-même, t'es timon maï. Nous, nous t'es tout petit et nous t'es plutôt insupportable. Nous t'es ciré, nous t'es qu'à bouger en loup. Mais, lors t'es timon maï, avant t'es parti l'école, ou t'es ni pour chahier de l'eau, faire zeba, bœuf, marrer mouton, aller porter manger bas cochon. Et puis, joute à la maca par les autres là, m'en t'es couché en les dos, à plat ventre. Kali un journal plié en kata dans poche moi et puis li mis en bougie éteinte. À moment ta la mon ka wè ka paraît devant moi yon kalte mousse. En mousse et puis au moins 1000 têtes. Il ka approché di moi, mon ka dou bout devant yon. Mon ka gade en mitan zye fal bombé. Des yeux te ka craché di fe. Ma senti anti faiblesse emparer moi. Mais m'a dit non, c'est ou qui ou pe dou bout devant mousse. Et puis m'a gade en mitan zye. En titre en blague qu'après moi. Et puis, j'ai ça moment là. Je suis allé en rêve là. Un rêve qui était qu'à venir, cauchemar. Et puis, je suis dit, heureusement, c'est un rêve. Yékrik!
Je ne demande pas de miracle, simplement du réalisable. Si les enfants du monde entier pouvait manger en quantité raisonnable. Je ne demande pas de miracle, simplement du réalisable. Si les enfants du monde entier pouvaient manger en quantité raisonnable, je nous vois rigoler à perdre haleine, on s'enivre, on s'endort, on se caresse et on se gave, on se pavane, la vie est belle. En oubliant qu'ailleurs des corps s'enchaînent tous les jours, des enfants rejoignent ce monde, des sourires, des regards pleins de tendresse, et ils nous voient comme des anges pleins de promesses. Et s'ils savaient ce que ce monde leur réserve. Et je ne demande pas de miracle, simplement du réalisable. Si les enfants du monde entier pouvaient manger en quantité et raisonnable, je ne demande pas de miracle, simplement du réalisable. Si les enfants du monde entier pouvaient manger en quantité raisonnable, raisonnable.
Aujourd'hui, un tout petit conseil. Pour celles et ceux qui aimeraient glisser un peu plus dans cette culture martiniquaise et dans sa relation à la mort et au rituel, je recommande la lecture du livre de Patrick Chamoiseau dont j'ai lu quelques extraits au cours de l'émission, « La matière de l'absence ». Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour ce mois-ci. On quitte l'île aux fleurs et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur les ondes de Radio La. D'ici là, Restons forts et prenons soin de ce qui nous fait beau.